Bienvenue sur Radio Créum. Vous êtes à l'écoute d'un extrait du colloque international « La tuerie de l'école polytechnique 20 ans plus tard, les violences masculines contre les femmes et les féministes », colloque qui a eu lieu à l'UQAM les 4, 5, 6 décembre 2009.
Bonjour, bienvenue, merci d'être aussi nombreuses, je ne dirais pas aussi nombreux. On va aujourd'hui continuer à réfléchir ensemble à la signification de cette attaque terroriste contre les femmes à Polytechnique, en élargissant évidemment avec la question de la violence en général. On va évidemment, pendant les deux jours qui nous restent, continuer à penser ou à porter, disons, la mémoire, le souvenir des femmes qui sont mortes ce jour-là. Il y a 20 ans, en fait, le 6 décembre, c'était un mercredi. Donc aujourd'hui, elles sont mardi matin. Sans doute sont-elles en classe. Il y avait 13 étudiantes et une adjointe administrative à l'Université de Montréal. Pour y avoir été, je le sais, ça commence à 8h30 le matin. Et donc, elles sont déjà sans doute en examen. Et l'adjointe administrative est déjà sans doute depuis longtemps au travail dans son module administratif. Et évidemment, elles ne savent pas encore ce qui va leur arriver demain. On va commencer. Donc, c'est comme hier, pour la plénière de hier, si vous étiez là. Donc, ça va être 15 minutes par présentation. On va se garder un bon 15-20 minutes pour la période de questions-discussions après. Je vais garder un 5 minutes pour vous donner les indications techniques pour les changements de locaux. Donc, commençons tout de suite avec... Je vous les présente toutes quand même tout de suite, rapidement. Moi, je vous les nomme à mon... Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais en fait, à votre extrême gauche, vous avez Diane Lamoureux. C'est pas ça qui fait drôle de dire, c'était l'autre chose que je voulais dire, c'est à mon extrême droite. Donc, Diane Lamoureux de l'Université Laval, je vais vous les présenter mieux tout à l'heure. Dominique Payette, également de l'Université Laval. Judy Rubick, qui vient du Canada anglais. Mais qui va quand même parler en français. Donc, elle m'a... Non, mais je vous le dis quand même pour pas que tout le monde court pour la traduction. Et tout de suite, qui va commencer à vous parler, Mélissa Blais. Donc, Mélissa Blais, elle est membre du comité de coordination. En fait, c'est la coordonnatrice générale des événements. L'idée de ce qu'on vit aujourd'hui et des événements avec l'idée d'une convergence artistique, thématique, manifestante pour dimanche après-midi et universitaire et communautaire, ça vient d'elle. Elle est doctorante en sociologie ici à l'Université du Québec à Montréal. Elle est professionnelle de recherche à l'Institut de recherche et d'études féministes. Elle vient, en fait, elle a fait un mémoire de maîtrise en histoire à l'Université du Québec sur les débats portant sur la tuerie. Et elle vient de sortir, en fait, un livre tiré de son mémoire avec un chapitre de plus sur le film. Livre qui s'intitule « Jaillit les féministes », le 6 décembre 1989 et ses suites, qui est publié aux éditions du Remis-Ménage et qui va être lancé, en fait, ce soir à 17h30 au bar-restaurant La Mer à boire, au 2049 Saint-Denis. Au 2049 Saint-Denis, c'est d'ailleurs inscrit dans votre programme. Donc, c'est une activité là, de fin de journée pour le colloque. Et nous avons co-dirigé ensemble l'ouvrage collectif intitulé « Le mouvement masculiniste au Québec, l'antiféminisme démasqué » chez Remis-Ménage, publié en 2008. Donc, je lui laisse la parole.
– D'abord, merci. Merci d'être si nombreuses quand même. C'est samedi matin. Moi, le samedi matin, à cette heure-ci, je vais vous avouer que je dors la plupart du temps. J'ai pas d'enfant et je dors. Et justement, de vous voir si nombreuses que samedi, c'est que l'antiféminisme n'aura pas raison de nous, je pense pas. En tout cas, vous en êtes la preuve ici ce matin. Et ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, ma communication s'intitule « Négocier la représentation de la tuerie du 6 décembre 1989, une analyse du film Polytechnique ». Le 6 décembre 1989, 14 femmes ont perdu la vie, 10 autres ont été blessées parce qu'un homme a décidé d'envoyer « ad patres » les féministes qui lui ont toujours gâché la vie. Des débats sur le sens à donner à cette tuerie antiféministe apparaissent dès le lendemain dans les médias, débat qui cherche tout aussi rapidement à se constituer en mémoire collective. La rapidité avec laquelle se constitue la mémoire du 6 décembre rejoint les propos d'Ali Moussaï lorsqu'il affirme, je cite, « On l'aura bien compris, le devoir de mémoire pose problème dès lors qu'il renvoie aux mémoires douloureuses, aux mémoires traumatiques, qui soulèvent la question de la reconnaissance, de la justice et du pardon. » Ainsi, plus vite se construit la mémoire collective, plus vite certaines personnes ont la chance de voir leur discours se cristalliser dans le temps, ce qui est d'autant plus important quand un événement mobilise des forces politiques adverses. Le tueur a déclaré « J'haïs les féministes ». Pourtant, l'analyse des contenus de plus de 600 articles et d'un corpus d'ensemble documents connexes confirme que les intentions du tueur sont souvent occultées dans les médias, qui sont ici analysés en tant que lieu et vecteur de mémoire. En effet, psychologues, universitaires, intellectuels, étudiants insistent sur la violence en général ou sur la psychologie du tueur, tandis que d'autres accusent les féministes d'avoir récupéré l'événement. Malgré le dénigrement de leurs paroles, les féministes poursuivent le travail de mémoire et de commémoration en commémorant justement à chaque année la mémoire des 14 victimes. Grâce à ces commémorations et mobilisations, le 10e anniversaire de la tuerie est l'occasion d'une certaine reconnaissance du dénigrement antiféministe présent dans les médias depuis le 6 décembre 1989. La reconnaissance du féministe reste toutefois superficielle, car les contenus médiatiques s'adaptent en évoquant parfois un avant et un après Polytechnique, suggérant que la relation entre les hommes et les femmes a franchi un nouveau cap, celui du dialogue, dans une société où régnerait maintenant l'égalité entre les sexes. Mais après 20 ans de mobilisation féministe, quelle est aujourd'hui la place du féministe dans la mémoire collective de la tuerie? Quel est l'impact, justement, du film Polytechnique sur cette mémoire? Et comment évolue cette mémoire et les rapports de force qui la composent? Voilà les questions qui sont au cœur de ma communication portant justement sur ce récent lieu de mémoire qu'est le film Polytechnique. Je traiterai plus précisément de la représentation des rapports sociaux de sexe que propose le film. J'aborderai également la place qu'occupent le féminisme et l'antiféminisme masculiniste dans ce lieu de mémoire cinématographique. Je terminerai par une analyse rapide de la réception du film par les journaux La Presse et Le Devoir, qui, je le rappelle, prennent ici la forme de lieu où se forme la mémoire collective et qui en véhicule les contenus. Le film Polytechnique, maintenant. Courte description. Le film Polytechnique fait alterner les points de vue du tueur, incarné par Maxime Gaudette, d'une survivante, Valérie, interprétée par Karine Vanasse, et d'un témoin, Jean-François, joué par Sébastien Huberdeau. Les artisans et artisanes du film ont choisi de nous faire revivre les 24 minutes de la fusillade à l'aide d'une approche qui, comme le dit Marc-André Lucier de La Presse, consiste à plonger le spectateur au cœur du tumulte. Comparativement à Jean-François, Valérie n'est pas une victime passive et ses agissements tout au long du film témoignent de sa force de caractère et de sa détermination à faire face aux défis qui s'imposent à elle. D'abord victime du machisme du responsable de stage, ensuite de l'antiféminisme meurtrier de Marc Lépine, Valérie surmonte les obstacles. Elle incarne à elle seule les aspirations d'une large frange du mouvement féministe, à savoir une femme forte qui parvient à se faire une place dans un domaine traditionnellement masculin. Le personnage de Karine Vanasse est le reflet des impacts positifs du mouvement féministe sur la représentation de la féminité, ainsi que les effets positifs des commémorations féministes sur la représentation de la tuerie. Jean-François, quant à lui, apparaît moins fonceur. Il ne semble pas avoir d'amis masculins et il se fait aider dans ses travaux par des étudiantes. Sa première épreuve est de réussir son examen puisqu'il semble éprouver des difficultés et il emprunte les notes de cours de Valérie. Suite à l'attentat antiféministe, Jean-François se sent coupable. Incapable de verbaliser ce sentiment de profonde culpabilité, il décide de mettre fin à ses jours. Ainsi, le protagoniste masculin vit différentes difficultés qui sont souvent identifiées comme les conséquences directes d'un féministe qui est allé trop loin. Certes, il ne se suicide pas à cause du féminisme, mais ses attitudes et comportements font écho au discours masculiniste sur la difficulté des hommes à l'école et sur leur incapacité à verbaliser leurs émotions. En effet, il ne parle pas de ses pensées suicidaires à sa mère, qui pourtant, elle, insiste pour savoir comment il va. De plus, l'absence du père de Jean-François fait écho à la thèse du psychologue Guy Corneau, « Père manquant, fils manqué ». Et n'est-ce pas une coïncidence que le seul parent à qui parle Valérie soit son père, et qu'elle seule fasse preuve de résilience. Le film Polytechnique suggère donc que les impacts de l'attentat et le choc post-traumatique a été plus grand chez Jean-François que chez Valérie. La résilience de Valérie, qui poursuit ses études et obtient un poste d'ingénieur, contraste en effet avec l'abandon scolaire et le suicide de Jean-François. Un écho aux hommes, que l'on dit davantage vulnérables que les femmes, voire plus sensible à la terreur qui les tue après coup. En construisant la narration du film autour du binôme féminin-masculin, l'expérience masculine de l'attaque, médiatisée par le personnage de Jean-François, en vient à prendre une importance équivalente à celle du personnage féminin, Valérie. L'expérience masculine semble alors d'autant plus tragique en comparaison à celle de la survivante qui donne naissance à un enfant, à la fin du film, tandis que Jean-François se suicide. Au sujet des traces laissées par le film, je tiens à rappeler qu'elles sont le fruit d'un processus de simplification et de généralisation qui influence la perception de l'œuvre. Comme le dit le spécialiste en dramaturgie Yves Lavandier, je cite, « Les personnages d'une histoire sont souvent ressentis par le spectateur comme des archétypes. Si, par exemple, le seul salaud d'une histoire est homosexuel, le spectateur l'interpréta comme le point de vue de l'auteur, un point de vue qui peut se résumer comme suit « Les homosexuels sont tous des salauds et tous les salauds sont des homosexuels. » Ainsi, le personnage de Jean-François fait écho au discours masculiniste sur l'homme en crise sans pour autant lui correspondre en tout point. L'analyse des agissements de Valérie et Jean-François invite à conclure que le film suggère une représentation négociée entre le féminisme et l'antiféminisme. Cette observation s'inspire des travaux de la féministe américaine Susan Douglas, qui rappelle que dès les années 1970, sitôt apparu un féminisme plus combatif, des médias ont cherché à freiner ses avancées, en même temps que d'autres tentaient de mettre leur lutte en valeur. Cette dynamique a donné lieu à des transformations des stéréotypes associés à la féminité. Selon elle, la télévision a constitué un champ de bataille privilégié entre les forces féministes, certes un féminisme non combatif, et antiféministe. En somme, la culture populaire télévisuelle aurait produit une version négociée de la femme libérée, fruit d'un compromis entre les revendications féministes et la résistance antiféministe. Par ailleurs, cette négociation a créé de la confusion dans l'industrie du divertissement. Des hommes semblent convaincus, maintenant, que le modèle de la Wonder Woman, ou les femmes autonomes hypersexualisées, répond aux souhaits des féministes. Pourtant, ces modèles de féminité sont dénoncés par bon nombre de féministes. Le film Polytechnique adopte ainsi le procédé de négociation entre les forces antiféministes, plus précisément masculinistes, et le féminisme. Un féministe égalitariste, bien entendu. Comme l'affirme Christian Rioux du Devoir, je cite, « Par une étrange magie, Le réalisateur a transformé le massacre commis par un tueur fou à l'école polytechnique en 1989 en un drame sur le suicide. Le journaliste ajoute que Jean-François est le véritable héros de l'histoire. Selon le professeur Jean Laberge, je cite, « L'horreur vécue aura cependant raison du bon samaritain, Jean-François. Profondément traumatisé, l'étudiant s'enlèvera finalement la vie. Jusqu'ici, le film montre que Marc Lépine a gagné son pari. Vraiment, il a semé la terreur. Pour le spectateur qui s'identifiait au jeune étudiant, tout paraît perdu. » Tout semble effectivement perdu pour quiconque s'identifie au personnage de Jean-François, l'homme sauveur souffrant. Plus précisément, au sujet de la réception médiatique, des journalistes, lectrices des grands quotidiens, et même celles qui adoptent un point de vue critique sur les rapports sociaux de sexe, reproduisent, à quelques variantes près, les codes du film polytechnique. Par exemple, la journaliste de La Presse, Marie-Claude Lortie, dira, je cite, « Le film est généreux car il laisse aussi une place à la réflexion sur l'impact de la tragédie sur tout le monde et plus particulièrement sur les témoins du drame et plus particulièrement encore sur tous ces hommes qui s'en sont tirés. Les hommes doivent dorénavant être comptés parmi les victimes du drame. » La tuerie, à travers la transformation des souvenirs, devient une sorte d'étrange massacre où le tueur cible des femmes, mais atteint autant les hommes. Cela dit, les journalistes ne font pas que reproduire les procédés de négociation à l'œuvre dans le film Polytechnique. La mise au pas du féminisme se poursuit 20 ans plus tard. Ce procédé s'appuie à son tour sur une stratégie semblable à celle mise de l'avant lors du 10e anniversaire. Il s'agit d'une position du compromis qui vise à étiqueter certaines féministes comme des déviantes. Le mauvais féminisme est réduit à quelques clichés. Par exemple, lorsque Rima El-Khoury de La Presse explique, je cite, Le film montre clairement que la tuerie du 6 décembre est un crime misogyne. Jamais il ne sombre dans une stérile guerre des sexes qui transforme tous les hommes en agresseurs potentiels et toutes les femmes en victimes. En conclusion, grâce au rapport de force établi par les féministes, il est de moins en moins possible de dire 20 ans après que le crime commis par Marc Lépine est un crime qui n'est pas misogyne. Par conséquent, ceux et celles qui s'opposent au féminisme adoptent et articulent autrement leurs critiques qu'au moment du premier anniversaire de la tuerie. Et si la majorité de journalistes divise désormais les féministes en deux camps, les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises ou les déviantes, ce sont celles qui s'identifient au féminisme radical ou à un féminisme plus combatif. De plus, on suggère désormais que les hommes sont autant sinon plus victimes du terrorisme sexuel de Marc Lépine. La plupart des articles qui discutent de la place des hommes, même ceux à teneur féministe, avancent qu'il est grand temps que les souvenirs du drame fassent état de la souffrance des hommes. Et en regard à cette proposition, je crois qu'il est plus que nécessaire de répéter que le tueur n'a tué que des femmes en déclarant « J'haïs les féministes ». Merci.